Avant tout, bonjour à toutes et à tous, et je vous remercie beaucoup de m'accueillir dans votre église. C'est avec beaucoup de joie que je suis ici, et puis beaucoup d'honneur de vous rencontrer. J'ai déjà entendu parler de vous. Vous savez que Kevin est ici depuis quelques mois maintenant. Et je me réjouis vraiment d'être ici, et je me réjouis aussi beaucoup en entendant les témoignages tout à l'heure. Élodie, Mathieu et Fred, ça m'a beaucoup touché aussi, et ça me touche toujours de voir ce que Dieu peut faire dans les vies. Et ça me touche d'autant plus quand c'est dans les vies de jeunes personnes, parce que je sais qu'ils se libèrent d'un poids que d'autres personnes peuvent traîner encore jusqu'à la fin de leur vie, toujours très longtemps. Et là, je me dis que c'est vraiment une vie qui commence, enfin, déjà jeune, on se libère de ça, et puis ça veut dire qu'on peut vraiment partir de l'avant, quoi. On se faisait cette réflexion avec Olivier et Kevin. On a partagé le même groupe de jeunes quand on était un peu plus jeunes, et on se disait que c'est vrai qu'on était quand même beaucoup moins mature que ce que j'ai vu hier ici. Alors c'est pour ça que je vous félicite, et puis gardez cette avance, et je pense que ça sera une vraie bénédiction pour cette église. Alors il s'est passé beaucoup de choses hier, c'est vrai, ça a été un peu douloureux. J'étais pas là pour faire plaisir, hein, pour reprendre les mots que j'utilisais hier. Mais aujourd'hui, peut-être un peu plus ce matin, je voulais pas vous laisser que avec avoir mis le doigt sur des problèmes. Je voulais aussi vous donner beaucoup d'espoir et une mentalité de vainqueur ce matin. Alors, je vous ai dit aussi que moi, en général, c'est la première fois que j'interviens sur des sujets comme ça. Donc, je me suis bien sûr formé beaucoup à tout ce qui était psychologique, surtout au niveau du coaching, parce qu'aujourd'hui, donc, je suis ingénieur. Je viens de démissionner de mon premier emploi et je commence mon nouvel emploi la semaine prochaine. Voilà. Donc, je travaille chez Saint-Gobain à côté d'Avignon, dans le sud, et je vais entrer dans le groupe Aost, donc le saucisson. Certains osent dire que ça me correspond mieux. La semaine prochaine, voilà. Et on est de la même école. Et puis, en même temps que mon premier boulot, donc j'ai entrepris de reprendre un master de coaching, et c'est là que j'ai beaucoup compris de choses aussi sur la psychologie que j'ai lu par moi-même, qui m'a amené à travailler sur le séminaire qu'on a fait hier. Voilà, donc je suis de base scientifique, et d'ailleurs j'ai beaucoup intervenu déjà dans des églises sur la science et la foi. C'est un sujet qui, moi, à un moment donné, j'ai eu besoin d'y travailler dessus pour trouver une cohérence. Et en travaillant dessus, notamment sur la question de créationnisme, d'évolutionnisme, j'ai trouvé beaucoup de cohérence. Et j'ai été amené à lire, si vous voulez, ce qu'ont écrit des grands hommes scientifiques. J'ai cité quelques phrases que vous devez voir au tableau ici, de gens qui sont chrétiens. On ne le sait pas toujours. Alors pas Einstein, mais Louis Pasteur était chrétien. Et Louis Pasteur dit cette chose: quand on fait un peu de science, on s'éloigne de Dieu. Et quand on en fait beaucoup, on se rapproche de Dieu. Einstein, qui n'était pas chrétien, qui voulait pas croire en Dieu, il y avait sa volonté et il voulait pas croire en Dieu, mais il disait, même si je veux pas, c'est obligé qu'il existe Dieu. C'est obligé. Et c'est incroyable le nombre de citations que Einstein a fait avec Dieu. Et dont celle-là: l'échelle de la science est comme l'escalier de Jacob, elle ne s'arrête qu'au pied de Dieu. Et pour finir, une citation de Max Planck. Alors, il est peut-être un peu moins connu. C'est le précurseur de la physique quantique, pour ceux qui voient à peu près ce que c'est. Et il a dit: chaque scientifique qui s'engage dans la recherche devrait voir écrit sur la porte du temple de la science: ici, la foi est obligatoire. Et moi, c'est vrai que dans mes anciens les autres conférences que j'ai faites, mon objectif, c'était vraiment de réconcilier les chrétiens avec la science, parce que si aujourd'hui la science ne prêche plus Dieu, parce qu'elle l'a été à un moment donné, c'est pas à cause d'elle, c'est à cause de la société qui à un moment donné a dit à la science: maintenant tu te tais. Parce que il faut savoir que la science, les grands hommes scientifiques, au moment où elle a pris son essor, c'est-à-dire au XVIIe siècle, c'était que des chrétiens. Et il n'y a pas longtemps, l'an 2000, l'UNESCO a fait un concours, une élection, a demandé à toutes les personnes qui avaient un niveau bac plus 7 et plus d'élire le plus grand savant du millénaire à travers le monde. Je vous laisse deviner qui a été élu. Cherchez pas très loin, c'est un Français. Et qui plus est, un Auvergnat, comme moi. C'était Blaise Pascal, oui. C'était Blaise Pascal. Et en numéro 2, Isaac Newton. Deux personnes qui non seulement qui ont fait plus pour la foi que pour la science. Deux personnes qui ont consacré plus de temps à travailler sur les évangiles, sur la Bible, que pour la science. Isaac Newton a écrit des commentaires du livre de Daniel, de l'Apocalypse, qui sont très intéressants. Et Pascal, bon, bah, les pensées de Pascal, c'était un gars qui était en avance sur son temps, quoi. Et c'est vrai que ces gens-là, c'est des gens qui avaient une vision globale des choses. On parlait du corps, de l'âme et de l'esprit hier. Ces gens-là arrivaient à découvrir les lois scientifiques, les lois physiques et les lois spirituelles. Et souvent, il y a des parallèles entre les deux. Et justement, c'est un de ces parallèles-là que je voulais vous parler aujourd'hui. Moi, quand on me parle de la foi, alors avec un petit f, la foi avec un grand f, pour moi, c'est la foi fondamentale, c'est la croyance en Jésus qui nous procure le salut. Puis la foi avec un petit f, le dictionnaire nous dit que c'est une croyance forte en quelque chose ou en quelqu'un. Donc c'est cette foi-là, on peut l'avoir en Jésus, bien sûr, mais on peut aussi la placer en son médecin, on peut accorder de la foi aux informations, on peut avoir foi que cet après-midi, l'équipe de France va battre l'équipe d'Écosse au rugby. Ça, c'est pour moi. Et si vous voulez, la foi, on la retrouve un peu partout dans notre vie, finalement. C'est de cette foi-là que je veux vous parler ce matin, parce que c'est une loi spirituelle. Et je voulais vous lire, donc dans l'évangile de Matthieu, pour commencer, au chapitre 21, les versets 18 à 22. Donc, l'évangile de Matthieu, chapitre 21, les versets 18 à 22. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Donc, c'est Jésus. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il trouva que des feuilles, et il lui dit: Que jamais fruit ne naisse en toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est un passage fort que Jésus aborde ici, un passage radical. Et il utilise les mêmes mots qu'un théorème mathématique. Si, alors. Et les théorèmes mathématiques ne souffrent d'aucune exception. Et c'est là-dessus que, en regardant, en lisant ces mots, ces paroles, et puis à côté de ça, en étant un peu scientifique, j'ai vu un parallèle que je voulais vous expliquer. Alors je vais un instant me mettre dans la peau d'un professeur de physique. J'espère que ça n'a pas rappelé de trop mauvais souvenirs à certains. D'un principe scientifique qui s'appelle la différence des potentiels. Mais c'est très simple, vous allez voir. Si j'ai deux bidons d'eau, dont un a un niveau plus haut que l'autre, et que je les relie avec un tuyau, et que je laisse passer l'eau, est-ce que vous savez ce qui se passe? Exactement, les niveaux s'équilibrent. Donc il y a un courant qui se crée, et puis les niveaux s'équilibrent. Oui, vous êtes tous un peu scientifiques. Vous savez qu'il y a des gens qui ont passé des heures à expliquer ça. Vous savez qu'il se passe exactement la même chose pour l'électricité. Donc si je prends une pile, une simple pile, je mets un interrupteur et une lampe, qu'est-ce qui se passe dans la pile? En fait, il y a deux parties dans la pile et un mur qui les sépare. Il y a un côté où il y a plein d'électrons, les électrons c'est des petites entités, et un côté qui en est vraiment vide. Et en fait, quand on met le circuit, quand on branche, qu'est-ce qui se passe? Les électrons, ils parcourent le chemin qu'on leur laisse pour aller du côté où c'est vide, jusqu'à ce qu'il y ait autant d'électrons d'un côté que de l'autre. Et en fait, il se crée aussi un courant. Vous voyez, c'est marrant, on utilise le même mot que pour l'eau. On dit un courant électrique ou un courant d'eau. Parce qu'il se passe exactement le même phénomène. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la nature a horreur du vide. La nature a horreur de la différence. Elle va tout faire pour combler ce vide-là. Elle va tout faire pour ramener les niveaux à leur équilibre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, et Dieu a conçu la nature comme ça. Et il y a plein de petits exemples, vous en trouverez d'autres, qui marchent comme ça. Et moi, le parallèle que j'ai fait avec la foi, c'est que dans votre imagination, dans votre vision que vous avez d'un projet ou de la réalité, il y a une différence justement avec la réalité. C'est-à-dire que vous avez une vision de quelque chose, d'une église, d'un projet pour les jeunes, et puis il y a la réalité qui n'est pas de votre vision qui n'est pas encore accomplie. Et ça crée une différence de potentiel. Et cette différence-là va créer à son tour un courant. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que justement, de garder ces images, cette pensée forte, d'élever le niveau à l'intérieur de vous, dans votre imagination, dans votre imaginaire, parce que la foi commence dans l'imagination, elle commence dans la vision que vous avez. Quand Jésus il dit, demandez à cette montagne de le faire, elle se jetterait dans la mer. Il faut avoir l'audace de l'imaginer ça, et de le demander, et de le dire. Et ne serait-ce que d'avoir ça en vous, et que ça n'existe pas dans la réalité, il va y avoir une sacrée différence entre les deux, et la nature ne supporte pas ça. Donc il y en a un des deux qui va changer. Est-ce que c'est vous, votre imagination, qui va changer? Est-ce que vous allez vous dire, finalement c'est pas possible? Ou est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est la réalité qui va changer? Et je crois qu'en tant que chrétien, ce matin, je vais vous encourager à vous changer votre environnement, et ne pas que ça soit votre environnement qui vous change vous. Parce que, avec tout le flux d'informations qu'on a chaque jour, au quotidien, entre les informations qui nous parlent du chômage, de la crise, etc., eh ben, ils arriveraient à nous en convaincre. Et une fois qu'ils ont réussi à nous mettre cette image en nous, c'est foutu. Vous voyez, on est à plat, on n'a plus d'espérance. Notre imagination n'a plus cette hauteur qu'elle pouvait avoir. Et on ne fait plus la différence dans la réalité. Et ce que je vous apprends, c'est que c'est vraiment une loi spirituelle, ça. C'est-à-dire que c'est un théorème. Il n'y a pas de demi-mesure. Et l'autre chose que je vais vous dire, c'est que c'est de notre responsabilité d'entretenir l'imagination, d'entretenir la foi qui est là. Et que des fois, c'est sur la durée, c'est difficile de la garder. C'est difficile de garder une image. Pourquoi? Parce qu'il y a un courant et que forcément, notre niveau se baisse. Et ce niveau, on peut le remonter. On peut le remonter grâce à Jésus. On peut le remonter parce que Jésus, c'est la personne en qui nous plaçons notre foi. C'est la personne qui peut faire que nous gardions constamment un niveau supérieur à la réalité. C'est la personne qui va nous faire garder justement cette vision, déjà qui va mettre le projet, la vision à l'intérieur de nous, et qui va nous faire qu'on va la garder. Je ne sais pas si certaines personnes connaissent Watchman Nee ou Yonggi Cho, je ne sais plus. C'est Yonggi Cho, pardon, que je voulais parler. Yonggi Cho qui disait, donc c'est le spécialiste de la foi, qui disait que quand il demandait quelque chose à Dieu, dans sa prière, il s'arrêtait et il imaginait. Et il regardait les détails dans son imagination de la chose qu'il allait avoir. Et de regarder ces détails, de l'inscrire dans la réalité, de projeter ce qu'il avait là à l'intérieur dans la réalité grâce à son imagination, ça lui permettait vraiment d'asseoir sa foi. Ça lui permettait de garder ce niveau élevé, et parce que Dieu répond, et parce que c'est une loi spirituelle, la chose arrivait. Lui, il imaginait le concept de, il parlait d'un concept d'enfantement. Et que c'était par ça que connaissait les choses, les projets qu'il avait en lui. Et c'est vrai que c'est difficile dans ce monde de garder ce niveau élevé de foi. Il faut arriver à se préserver du monde. C'est très important. Ça fait partie des trois points pour garder ce niveau élevé, c'est se préserver des messages du monde. Parce que le monde, comme on a vu hier, veut vous donner un rôle qui n'est pas celui que Dieu veut vous donner. Et le monde veut vous envoyer des messages. Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps à ce propos, qui était au chômage. Et il me disait, mais de toute façon aujourd'hui, c'est possible de trouver du boulot. Et je lui dis, bah, si tu as cette idée-là, je te promets que tu n'en trouveras pas. Et je lui dis, par contre, arrête d'écouter les infos, arrête d'inscrire ces messages de défaite en toi, et puis prends la Bible, lis les promesses de Dieu, et puis fais monter petit à petit le niveau, et tu verras que là, tu trouveras un travail. Et en plus, mieux que ce que tu pourras penser. Deuxièmement, il faut justement projeter, visualiser, imaginer toucher, écouter, parce que moi je sais que j'ai une mémoire visuelle, alors je parle beaucoup de vision, mais je sais que parmi vous il y a des gens qui ont une mémoire auditive, des gens qui sont kinesthésiques, ah, je suis arrivé à le dire, Florence. Voilà, faites-le comme si vous aviez déjà. Jésus vous dit, vous nous demande de faire comme si on l'avait déjà. Et la foi, c'est ça. Et puis le plus dur, finalement, c'est de l'entretenir, cette vision. Et ça, c'est vraiment un effort. C'est vrai qu'on parle des fois du don de la foi. Certains l'ont. Mais pour moi, la foi, c'est un effort. C'est quelque chose qui est parfois difficile. Parfois, c'est difficile d'entretenir cette image, la vision qu'on a. Parce qu'autour de nous, il y a tellement de choses qui nous font dire que c'est pas possible, que c'est très difficile de la garder. Et c'est là qu'est votre responsabilité, avec l'aide de Dieu, bien sûr, mais c'est là que la volonté agit. Hier, j'ai beaucoup parlé de la volonté aussi de chacun. Et chacun a le choix, on chantait tout à l'heure qu'on a choisi, et bien, chacun a le choix de garder ou pas, d'être rigoureux ou pas, de faire l'effort ou pas. Et être chrétien, c'est aussi faire l'effort. Je sais que le mot « effort » en France n'est pas un mot très populaire. Mais si on fait l'effort en nous de garder ça, c'est la réalité autour qui va changer. Et des fois, vous allez même vous demander comment. Parce que c'est une loi et c'est comme ça. C'est quelque chose qui marche aussi pour les non-chrétiens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Napoléon Hill, ça vous dit quelque chose. C'est quelqu'un qui avait écrit un best-seller dans les années 1930, je crois, qui encore aujourd'hui est réédité peut-être tous les 2-3 ans. C'était « Comment devenir riche en 10 leçons ». Et ce Napoléon Hill, est d'ailleurs devenu riche grâce à ce livre, a en fait été embauché par un club de milliardaires pour... faire des interviews de milliardaires, de personnes qui étaient très riches. Il a fait plus de 500 interviews, il a mis 20 ans à faire ses recherches pour essayer de décrypter comment devient-on milliardaire. Et dans son livre que j'ai lu, à une certaine époque, c'est marrant parce que le point central, c'est pas du tout des questions de business, de tout ça, qui disait c'était « persuadez-vous que vous êtes devenu riche et vous allez le devenir ». Et là, je me suis dit, alors évidemment, devenir riche, c'est pas l'objet de notre foi. Je sais pas ce que je vais vous prêcher ce matin. Mais ce que je me dis, c'est que c'est tellement une loi que même pour les païens, ça marche. C'est-à-dire que c'est tellement une loi qui existe. C'est que pour les sportifs, ils visualisent, mais aujourd'hui, il y a des sportifs qui visualisent la victoire avant de concourir. Et ça les aide à gagner. Et des fois, quand je jouais au rugby, je sais qu'on avait un match important une fois. Quand je jouais à Grenoble, et on était à la mi-temps et on perdait. Et puis j'étais capitaine, j'avais demandé donc à mes coéquipiers de se mettre en cercle, de fermer les yeux. Alors après les quelques premières moqueries, ils s'y sont prêtés. Et puis je leur ai demandé visualiser la victoire, visualiser comment on va se taper dans les mains à la fin du match parce qu'on va gagner. Et puis là il y a une sorte de synergie qui s'est créée. Et puis on a gagné. Et vous voyez, parce qu'il y a un courant, il y a quelque chose qui s'est passé. Et une fois que c'est là, il y a quelque chose qui se passe dans notre environnement autour. Et c'est vrai que pour le chrétien, c'est pas toujours simple de garder ça. Jacques nous en parle beaucoup, nous dans son épître. Au chapitre 4, je vais vous lire le passage. C'est avant Pierre, Jacques ? Oui. Voilà. Donc chapitre 4, à partir du verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est vrai qu'en nous, chrétiens, on a déjà le Saint-Esprit, et c'est difficile d'entretenir une image forte dans notre imagination si elle est en contradiction avec le Saint-Esprit qui, lui, déjà est en nous. C'est-à-dire que si des païens peuvent avoir la foi d'être riches, pour nous, c'est déjà plus possible. Parce que si vous avez deux personnes en vous qui luttent, qui sont en contradiction, vous ne pourrez pas avoir une image forte. Vous ne pourrez pas avoir une image, un niveau de foi élevé. Parce que si le Saint-Esprit et vos passions luttent, ça va être difficile d'être en cohérence. Et la cohérence, c'est la base de cette force, justement, de la foi. C'est-à-dire qu'on est obligé, et grand bien nous en fasse, de suivre les directions du Saint-Esprit, de suivre les directions de Dieu. C'est pour ça que quand on s'inscrit dans cette volonté de Dieu, à ce moment-là, on va arriver, avec encore plus l'aide et le soutien du Saint-Esprit, à avoir ce niveau de foi élevé, à le renouveler constamment. Tout à l'heure, David m'a piqué mon message, m'a piqué un verset en lisant au piano. C'est le renouvellement de l'intelligence. Et vous savez que, justement, ce renouvellement, il vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et il faut pas qu'on entende, justement, les messages du monde. Et si on arrive à se faire renouveler par la parole, si on arrive à être en phase avec le Saint-Esprit, avec la volonté du Saint-Esprit, si notre volonté est en phase avec la volonté du Saint-Esprit en nous, alors on va arriver à garder ce niveau élevé. Donc la première chose à faire, c'est justement de demander au Saint-Esprit quelle est sa volonté. La deuxième chose à faire, et Jésus nous le demande souvent, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, c'est demander. Quand j'étais en lycée militaire, puis on était en train de préparer nos concours pour les écoles d'ingénieurs. Et puis j'avais mon collègue qui était chrétien, mais d'origine catholique, mais il avait quand même, je pense qu'il avait la foi. Et puis un jour je lui dis, mais pourquoi tu pries pas pour tes concours? Il m'a dit, mais je veux pas déranger Dieu pour de si petites choses. Et je lui dis, bah t'as rien compris, t'as rien compris du tout, parce que Dieu il veut que on lui demande, Dieu veut qu'on soit dépendant de lui. Quelqu'un m'a dit un jour même, je citerai pas son nom, c'est un de mes frères, il est dans la salle. Il m'a dit une fois, j'ai demandé à Dieu, tu m'excuseras Kevin, je trouvais pas un boulon et j'étais en train de rechercher, j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu peux me trouver ce boulon, et je l'ai trouvé dans l'instant. C'est pas vrai? Donc vous voyez, même pour les plus petites choses, on peut arriver à demander à Dieu. Donc ensuite, il faut entretenir cette pensée. Une fois qu'on a la pensée, qu'on l'a demandé à Dieu, il faut l'entretenir. Donc ça, c'est les trois points qu'on a vus. Se préserver, se forcer à imaginer, faire l'effort. Et puis, dernière chose, recevoir. Et ça, je l'ai bien mis, parce que c'est pas si évident que ça. Des fois, on fait justement les trois quarts du chemin, et puis au moment de recevoir, on s'en sent pas digne, ou on pense qu'on ne mérite pas, et ça, on a raison. Mais de toute façon, avec Dieu, on est dans la grâce, on n'est pas dans le mérite. Et il y a justement beaucoup de choses qui viennent de l'âme, on a parlé hier du psychologique, qui font que des fois, on n'ose pas, on veut pas, on a peur, on ne croit pas que c'est fait pour nous. On se dit, mais je mérite pas ça, je suis trop mauvais, parce que dans notre enfance, on a eu certaines injonctions, on se dit, mais c'est pas pour moi, le bonheur n'est pas pour moi. Les choses bien ne sont pas pour moi, la prospérité n'est pas pour moi. Et ça, c'est vraiment un obstacle. Et il faut apprendre à recevoir. Il faut apprendre à recevoir sans donner en retour, des fois. Il y a beaucoup de gens qui acceptent de recevoir, et puis j'avais un collègue comme ça, quand je lui faisais un cadeau, j'étais sûr que dans la semaine, il m'en faisait un, parce qu'il voulait vraiment ne rien devoir. Et apprenez à devoir quelque chose à Dieu, de toute façon, on est complètement dépendant de lui. Il faut pas hésiter là-dessus. Il faut pas hésiter à demander, il faut pas hésiter à recevoir. Et quand les bénédictions sont à notre porte, eh ben, recevez-les. Sachez les recevoir, sans contrepartie. Sachez les apprécier. Comme hier, on a fait un petit exercice en se mettant des phrases positives sur des post-it, et puis en se les mettant, en collant les post-it dans le dos. C'était juste des compliments qu'on se faisait, et puis on les prenait, on les lisait, puis il fallait juste les recevoir, les accepter. Et bah, c'était pas si simple que ça pour certaines personnes, d'accepter un compliment. Et bah, apprenez à les accepter, apprenez à vous construire de ça, apprenez à les savourer, ce sont toujours des choses bonnes. Voilà, donc j'arrive à la fin, c'était assez court, mais je pense que le message, l'essentiel, est passé. Pour ceux qui aiment bien Indiana Jones, il y a une scène que j'aime beaucoup, moi. C'est pas un film très spirituel, mais il y a une scène que j'aime beaucoup, et je me dis ça, c'est vraiment l'image de la foi. Vous savez, Indiana Jones est devant un précipice. Devant lui, et puis il a un livre qui lui dit quoi faire, et qui lui dit, bah, marche en face, à la porte d'en face. Et il y a un précipice devant. Et il sait pas. Il réfléchit, et puis il est obligé de le faire, parce que je sais plus pourquoi. Il y a les méchants derrière, peut-être, ouais. Et puis finalement, il fait un pas dans le vide. Et puis, en tombant, en fait, il y a un pont, mais on le voyait pas parce qu'il y avait une illusion d'optique. Et c'est ce pas dans le vide que je trouve très intéressant. C'est ce premier pas dans le vide. Parce que souvent, la foi, c'est ça. Le premier pas, il est à nous. Et de faire ce premier pas, ça nous permet aussi de vérifier que nous, on y croit, justement. Ça nous permet de faire ce premier pas. Et en général, quand on le fait, d'ailleurs, de toute façon, le Seigneur est fidèle et bon. Et quand on va le faire, eh ben, on va toujours atterrir sur un pont qu'on ne voyait pas forcément. Et en fait, les gens, les généraux de la foi, les princes de la foi, enfin, parmi les chrétiens, leurs histoires, c'est que des choses comme ça. C'est que des choses où ils ont fait à un moment donné un pas dans le vide. À un moment donné, ils avaient tellement la foi, ils avaient tellement confiance en Jésus qu'ils ont fait un pas dans le vide. Ça, c'est très difficile. Il y a des gens qui ont un don pour, et puis il y a les autres, dont moi, pour qui c'est difficile, mais des fois il faut se forcer à le faire. Et vous verrez que Dieu est fidèle et bon. Comme je vous ai dit, j'ai démissionné de mon travail il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, parce que ça ne me convenait plus, je sentais que je devenais inutile. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais c'est un travail super, tu es en CDI, tu es bien payé, tu es dans le sud de la France. Et pourquoi tu veux partir? Je dis, je sens qu'il faut que je parte, je sens que c'est la volonté de Dieu. Alors, du jour où j'en étais convaincu, j'arrivais avec ma démission, j'avais rien derrière, et j'ai dit, voilà, je pars, je prends mes 2 mois de préavis, et puis je pars. Les gens m'ont dit, mais c'est complètement dingue, aujourd'hui, on retrouve pas de boulot, et les jeunes, il y a beaucoup de chômage, etc. J'ai dit, mais écoutez, moi je m'inquiète pas, c'est la volonté de Dieu, c'est ce petit pas dans le vide, j'ai foi. Et puis, avant même que je parte de ce travail, j'en avais retrouvé un autre. Parce que Dieu était là. Et qui plus est, je l'ai retrouvé dans la région que j'aime beaucoup, l'Auvergne. Enfin, à la limite, à la Loire, en fait. Et ça me permet de. J'ai fait le grand chelem parce qu'en plus, j'ai trouvé une place meilleure que celle que j'avais et mieux payée. Bon, ça. C'est quelque chose. Parce que Dieu est toujours fidèle et souvent d'ailleurs il donne un peu ou beaucoup plus que ce qu'on pensait quand nous on fait le premier pas, ce premier pas. Et moi je voulais vous encourager ce matin. Je pense que vous avez tous quelque chose dans votre vie, peut-être une vision que vous avez mis un peu de côté, qui a été un peu ramollie, aplatie parce que avec le monde autour. Des fois on baisse, des fois on est un peu lasse, on est un peu en burn-out. Et ce matin, je voulais vous encourager, je voulais vous dire, allez puiser en Dieu, allez puiser dans le Saint-Esprit cette force, entretenez cette vision, réélevez-la. N'hésitez pas à la voir un peu plus grand. N'hésitez pas à voir un peu plus grand. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous imaginez actuellement? Eh ben, rajoutez un peu plus. Parce qu'en rajoutant un peu plus, ça va faire un courant plus fort. C'est pas facile. Je suis bien conscient. Mais vous verrez, faites-le. Je vous mets au défi de le faire. Vous avez tous quelque chose dans votre vie, j'en suis sûr. Un projet, une vision. Et là, gardez-la, imaginez-la. Voyez plus loin, voyez plus grand. Et puis faites ce premier pas. Et si jamais vous demandez à une montagne de se jeter dans la mer, s'il vous plaît, ne prenez pas les montagnes d'Auvergne. Merci.